It's Morning Edition from NPR News.
France Inter, le 18-20.
Et ce soir, nous sommes en Nouvelle-Calédonie qui vote ce dimanche, qui semi-vote, pardon de le dire comme ça, parce que les indépendantistes boycottent un scrutin qui doit normalement mettre un point final aux accords de Matignon de 1988. On pense aussi donc à l'après-vote et ce qu'il faudra désormais inventer. On y vient tout de suite. Le bruit du monde ce soir est en Mauritanie, où les associations essayent comme elles le peuvent de faire de la prévention et aussi du soin contre le sida dans les populations homosexuelles ou chez les travailleuses du sexe qui sont mises en danger par le gouvernement mauritanien. Le bruit du monde, la suite. Sous les radars, Sébastien Legénie a trouvé une consommation de joint exponentielle aux Pays-Bas. 17 policiers immergés littéralement dans un quartier au Québec. Et puis en Australie, une boîte noire de la Terre. Vous verrez, c'est très 2001, Odyssée de l'espace. 18h50, l'Europe, tu l'aimes ou tu la quittes. En ce jour de discours presque inaugural de la présidence française au Conseil de l'Union, nous allons faire et défaire les couples. Regardez d'abord ce qui unit la France et l'Italie, ce qui désunit la France et la Hongrie. Et puis à 18h55, le monde d'après, c'est Jean Marfour qui regarde les difficultés à venir du bon vieux couple franco-allemand. Le monde est vaste et on n'a qu'une heure. Bonsoir.
Fabienne Saint-Dès. Un jour dans le monde.
Bonsoir Benoît Trépied.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous. Vous êtes anthropologue, vous êtes chargé de recherche au CNRS, spécialiste de la Nouvelle-Calédonie, où nous irons d'ailleurs faire un tour dans un tout petit instant grâce à un reportage de Sandrine Etoa-Andeg. Benoît Trépied, on sait bien que les indépendantistes boycottent ce scrutin de dimanche, qui devait donc, je le disais, achever le processus de décolonisation qui a été entamé il y a maintenant 30 ans. Ça veut dire que les résultats, on les connaît d'avance, puisque si seuls les loyalistes votent, c'est pas bien compliqué. Est-ce qu'on considère que c'est une journée perdue? Est-ce que c'est un long processus perdu aussi? À quoi il faut qu'elle serve quand même cette journée?
Alors, d'un point de vue juridique, elle va servir à clôturer l'accord de Nouméa. Mm-hmm. Donc, ce référendum devait se tenir d'un point de vue tout à fait.
J'espère qu'on n'a pas perdu Benoît Trépied, parce que si c'est le cas, à 18h18, c'est très compliqué. Si vous nous entendez, monsieur Trépied, repassez sur votre téléphone, ça va nous aider, vous et moi. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Ben écoutez, on a 3 minutes pour essayer de vous retrouver. C'est facile, on va aller y faire un tour en Nouvelle-Calédonie grâce à Sandrine Etoa-Andeg et à Laurent Macchietti. Vous comprendrez la situation là-bas, le boycott des indépendantistes. Que disent les loyalistes et où se trouve la population en Nouvelle-Calédonie aujourd'hui à quelques jours de ce scrutin?
Bonsoir tout le monde.
Philippe Gomez, président de Calédonie Ensemble, un parti non indépendantiste, se sent chez lui à la tribu de Watom. La tribu Kanak est rattachée à la FOA, commune rurale que le député centriste a dirigée pendant 18 ans.
Merci.
Comme le veut la tradition, il fait la coutume. Il offre un présent symbolique en signe de respect au chef de tribu qui l'accueille. Ici, un morceau de tissu. Dans la maison traditionnelle bordée de fleurs tropicales, une vingtaine de personnes est venue l'écouter. Sur le terrain, la démobilisation des électeurs est réelle.
Tout le monde considère que le référendum est gagné de l'avance puisque les indépendantistes n'y participent pas. L'apesanteur culturel dans les milieux kanaks va conduire un certain nombre de Calédoniens d'origine kanak qui votent pour le non, de ne pas aller dans le bureau de vote pour ne pas se faire identifier, parce que jusqu'à maintenant, elle n'a jamais dit qu'elle votait pour le non, donc il n'y a pas d'anonymat du vote. C'est un enjeu majeur. La participation va être en chute libre, ça c'est sûr.
L'appel à la non-participation des indépendantistes, Iliana ne la comprend et ne l'accepte pas. Crâne rasé sur les côtés, cette éleveuse de 18 ans compte voter pour la première fois.
Mais je me dis qu'en fait, c'est une personne qui veut faire le commandant, alors que tout le monde a le droit d'en faire ce qu'il veut. Moi, en tout cas, j'irai voter. Je ne suis pas décidée encore, mais pour l'instant, je suis pour le non à l'indépendance.
Pourquoi ?
En tant que jeune, je me pose des questions. Comment je vais faire pour travailler, pour les formations aussi? Je voudrais avoir plus de diplômes et je me dis que si la France elle est encore là, ça pourrait être une grande chance de pouvoir aller étudier ailleurs.
En retrait, Louis, âgé d'une 50aine d'années, explique d'abord être venu par curiosité. Il a choisi, il votera oui à l'indépendance.
Il y a moyen de faire sans la France.
Mais au fur et à mesure de la conversation...
Bon, les indépendantistes, en 30 ans, ils m'ont pas encore dit. C'est quel docteur kanak qui va venir nous soigner? Quel ingénieur qui va nous faire un pont, s'il y a un pont qui est cassé?
Le discours du père de famille évolue.
Aujourd'hui, il n'y a plus d'indépendance à demander, c'est malheureux de dire ça.
Et donc dimanche, vous allez voter quoi alors au final?
Ben, je vais voter non.
Non?
Ben oui.
D'accord, parce que vous avez dit que vous allez voter oui, c'est pour ça.
Oui, voilà. Parce que c'est difficile pour moi, parce que Il y a eu trop de morts chez nous, Mélanésiens, pour la lutte comme ça. Là. Je ne peux pas trahir mon peuple. Pour bien faire, je pense que je vais m'abstenir.
Pourtant, dit-il, le droit de vote, c'est sacré. Le droit de vote pour tous, les Kanaks ne l'ont obtenu qu'en 1957.
Merci à Sandrine Deatoua Andeg et à Laurent Maquetti pour ce reportage. On sent bien une île déchirée. Je suis contente de vous avoir retrouvé, Monsieur Trépied. Est-ce que vous êtes là?
Oui, génial. Je suis revenu. Oui.
Voilà, formidable. Ben, je vous repose la même question. À quoi elle sert cette journée si on a le sentiment que les résultats sont connus d'avance puisque toute une partie de l'île n'ira pas voter?
Ce que j'essayais de dire tout à l'heure, c'est que d'un point de vue juridique, elle sert à clôturer l'accord de Nouméa, puisque c'est obligatoire que ce référendum ait lieu. Mais d'un point de vue politique, effectivement, ça sert à peu près à rien, puisque avec un score massif en faveur du non, mais une très forte abstention, personne pourra véritablement s'appuyer sur le résultat de ce référendum pour entamer des négociations à l'avenir. Donc, c'est pas du meilleur augure pour la suite à venir.
L'un des arguments contre ce référendum de la part des Kanaks, c'était d'abord la situation sanitaire. La bulle de protection de l'île, effectivement, elle a sauté au mois de septembre. Il y a eu des morts, presque 280 aujourd'hui sur 270 000 habitants, surtout des Kanaks, assez peu vaccinés. D'ailleurs, parce qu'il y a peu de vaccins ou parce qu'ils sont peu enclins à la vaccination, Benoît Trépied?
Non, alors au départ, le Covid a été ravageur parce qu'il y avait peu de vaccinés. D'accord. Tout court, comme la plupart des territoires qui étaient restés Covid-free jusqu'à très récemment, et la Calédonie était l'un de ces rares territoires. Ensuite, effectivement, il y a eu cette grosse vague qui a fait énormément de dommages, en particulier dans les communautés océaniennes et kanak, qui cumulent les facteurs de comorbidité. Et ce que le ministre avait dit, c'est qu'ils observeraient la situation sanitaire en tant que telle, c'est-à-dire le taux d'incidence, etc. Et c'est à l'aune de ça qu'ils ont décidé de maintenir le référendum. Ce qui n'a pas été pris en compte à ce moment-là dans la réflexion, c'est l'impact social et culturel de cette vague de morts sans précédent et du fait que le peuple kanak est entré en deuil dans des cérémonies coutumières de deuil longues, complexes, que même le Sénat coutumier qui représente la promotion de l'identité kanak d'un point de vue officiel a décrété une année de deuil kanak, et que dans ces conditions, il était trop compliqué pour les indépendantistes de faire campagne dans des tribus endeuillées, des familles endeuillées, que culturellement, ça pouvait pas se passer. Et c'est là que le nœud s'est noué, c'est-à-dire qu'ils ont demandé un report pour pouvoir avoir le temps d'enterrer leurs morts selon leur rituel, etc., pour ensuite faire une campagne politique qui entraînerait au maximum l'adhésion. Et comme ça n'a pas été accepté, d'où le blocage, l'appel à la non-participation et cette dernière marche de l'accord de Nouméa qui se termine un peu comme un gâchis.
Parce qu'il y a donc l'argument du Covid, il y avait précédemment l'argument que de toute façon, il ne pouvait pas y avoir d'élection en même temps que nous sommes dans le même processus en France au même moment. Est-ce qu'il y a aussi quand même, de la part des indépendantistes, besoin de temps? On a bien vu qu'ils étaient plutôt divisés sur un certain nombre de choses ces derniers temps, entre l'Union calédonienne et l'Union nationale pour l'indépendance. Est-ce que le boycott, c'est pas aussi de demander du temps pour se refaire une santé, de se refaire une unité, Monsieur Trépied, sincèrement?
Non, je pense pas, parce qu'en fait, au mois d'août, tous les partis indépendantistes avaient décidé de se lancer à fond dans la campagne pour le référendum de décembre. Donc certes, il y a effectivement des dissensions très fortes au sein du mouvement indépendantiste, comme il y en a dans le camp loyaliste, mais autour des grandes échéances, en l'occurrence sur cette question d'indépendance, systématiquement, dans les deux camps, on se rassemble sur ce qui fait le ciment commun, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Et donc, ce qui est assez frappant, c'est que même si les indépendantistes n'étaient pas d'accord avec cette date, du fait qu'elle télescopait le calendrier électoral français, au mois d'août, ils ont pris la décision collective d'y aller quand même. Et le Covid est arrivé en septembre, en fait. Donc, il y a vraiment eu un enchaînement des événements qui a abouti à cette situation-là.
Vous diriez qu'ils se tirent quand même une balle dans le pied ou pas? La raison pour laquelle je vous pose la question, c'est que au premier référendum, 57% non à l'indépendance. Au deuxième référendum d'octobre 2020, 53%. Donc les chiffres, doucement, pouvaient s'inverser. Est-ce que ne pas y aller, c'est aussi se tirer une balle dans le pied?
Non, je pense que c'est l'État qui se tire une balle dans le pied en rompant les conditions du dialogue en Nouvelle-Calédonie. Parce qu'en réalité, depuis 30 ans, la paix est revenue parce que l'État s'est posé non seulement en tant qu'arbitre impartial, mais aussi en tant qu'initiateur du dialogue pour que les deux camps continuent à dialoguer malgré leurs désaccords. D'où l'accord de Matignon, les accords de Matignon, d'où l'accord de Nouméa. Et en fait, le vrai problème, à mon sens, c'est qu'en plaçant cette date à ce moment-là, c'est-à-dire au milieu de la campagne présidentielle en France, l'État s'est empêché d'avoir la souplesse, de la reporter si jamais, effectivement, dans les conditions particulières sanitaires. Mmh. Et une fois de plus, je doute que les indépendantistes se tirent une balle dans le pied parce qu'ils ne pouvaient pas faire campagne dans des conditions leur permettant d'aller chercher les derniers abstentionnistes mmh. avec la vague du Covid. Donc finalement, on arrive à cette situation de blocage.
La raison, selon vous, pour laquelle Emmanuel Macron décide qu'on y va quand même, est-ce que c'est qu'il lui aurait été reproché d'être celui qui a perdu la Nouvelle-Calédonie potentiellement, ou est-ce qu'il voulait au contraire être celui qui garde la Nouvelle-Calédonie? Il a eu cette phrase qui disait « la France sera moins belle sans la Nouvelle-Calédonie ». Est-ce que vraiment c'est porteur électoralement de garder la Nouvelle-Calédonie dans son quinquennat?
Les deux hypothèses sont envisageables. La vraie question, c'est est-ce que la Nouvelle-Calédonie est utilisée ou n'est pas utilisée en termes de bilan de quinquennat en vue d'une élection. Mmh. C'est là le vrai problème. Et en réalité, si on dit ça, c'est parce que tous les observateurs et les gens qui connaissent la Calédonie savent que l'instrumentalisation du problème calédonien dans les élections françaises n'a toujours amené historiquement que des problèmes. Et le pic, il est bien connu entre les deux tours de la présidentielle en 1988, lors du drame de la grotte d'Ouvéa, avec l'assaut de la grotte d'Ouvéa entre les deux tours de la présidentielle en vue de séduire les voix de l'extrême droite. Et c'est précisément pour ça qu'Édouard Philippe, en 2019, s'était solennellement engagé au nom de l'État et de tous les partenaires indépendantistes et loyalistes à ne pas placer ce dernier référendum entre septembre 2021 et août 2022. Oui. Ça a fait l'objet d'une déclaration officielle solennelle. Et c'est autour du choix d'avancer la date dans la campagne présidentielle que découle un certain nombre de problèmes maintenant qui paraissent assez inextricables.
Est-ce que le positionnement du gouvernement français est lié aussi, est-ce qu'il y a concomitance à l'influence que la France entend avoir dans l'Indo-Pacifique, elle n'entend pas perdre, encore plus depuis le fameux accord et la crise des sous-marins entre la France, l'Australie et les États-Unis, est-ce qu'il y a un lien de cause à effet?
C'est plus à eux qu'il faut leur demander, hein. Je ne suis pas dans les secrets des couloirs de l'État, mais en tout cas ce qu'on constate, c'est qu'effectivement, dans la nouvelle diplomatie française mise en œuvre sous le quinquennat d'Emmanuel Macron, la zone pacifique ou indo-pacifique, comme on le dit maintenant dans les palais de la République, est devenue soudain un enjeu majeur de confrontation entre la Chine, l'Australie, les États-Unis, etc. Mmh. Donc est-ce qu'à partir de là, la France a décidé de faire en sorte de conserver la Nouvelle-Calédonie dans l'ensemble français parce que on n'envisage pas que la diplomatie et l'influence française puissent s'étendre si la Calédonie, dans le Pacifique, si la Calédonie devient indépendante. Mmh. C'est une possibilité. Après, ce qui est quand même assez intéressant à savoir, c'est que les indépendantistes kanaks, eux, ne demandent plus depuis longtemps d'indépendance de rupture avec la France. Ce qu'ils demandent, c'est une indépendance en partenariat étroit avec la France, dans lequel des accords étroits d'association pourrait permettre très largement à la France de conserver son influence dans la région, de conserver ses bases militaires, etc. etc. Donc il y a deux stratégies politiques du point de vue de la diplomatie française. C'est se dire le drapeau français et l'assurance de maintenir la place de la France dans la région, mais ce faisant, si jamais on fait face aux indépendantistes kanaks qui vont s'en plaindre aux Nations Unies, etc., la France risque surtout d'être taxée de colonialisme et d'être encore un État impérialiste qui ne veut pas renoncer à cet objectif colonial. Mmh. Ou alors, on envisage de façon plus pragmatique des relations de partenariat privilégiées, parce qu'une indépendance en partenariat, c'est comme Monaco et la France. Mmh. Donc vous voyez que c'est pas du tout quelque chose qui n'existe pas d'abord et puis qui est inenvisageable. Mais le problème, encore une fois, c'est que le contexte politique actuel ne permet pas d'avoir ce genre de discussion pragmatique.
Et alors, par ailleurs, vous l'entendez, Benoît Trépied, la petite musique, on l'a même entendu d'ailleurs pendant avant la primaire à droite, la petite musique, c'est que la Chine va mettre la main sur la Nouvelle-Calédonie si la France s'en éloigne. On a bien vu qu'il y avait eu des rapprochements, qu'il y avait eu des rencontres. Est-ce que ça, c'est une petite musique qui est inventée de toutes pièces, ou est-ce que vous diriez que ce risque, il existe, il est réel?
Que la Chine déploie une diplomatie expansionniste dans le Pacifique avec des accords commerciaux, comme elle le fait avec un certain nombre d'États indépendants du Pacifique, c'est une réalité. Mmh. Ce qu'il en est dans le débat calédonien, ça me paraît plus de l'ordre du fantasme, en fait, hein, et d'un argument qui consiste à dire « attention, si la Calédonie n'est plus française, elle va devenir chinoise ». Mais les indépendantistes y répondent quand même par le béaba qui dit « jusqu'à preuve du contraire, c'est pas la Chine qui nous a colonisés, c'est la France ». Donc le contentieux actuel, c'est un contentieux colonial, il doit se régler d'abord avec l'État français, et puis surtout le fondement de l'accord de Nouméa et ce pari inédit, audacieux, dans l'histoire de l'humanité, c'est de faire une décolonisation en renouant un lien entre les anciens colons et les anciens colonisés. C'est-à-dire en créant cette citoyenneté calédonienne, cette communauté destin. C'est ça le cœur de l'accord de Nouméa. Donc la décolonisation, elle passe dans les rapports sociaux, en Nouvelle-Calédonie, dans la construction d'un pays, comme ils le disent tous, hein, d'ailleurs, des deux côtés. Et puis une fois que ce pays est institué dans le quotidien, on redéfinit posément, de façon pragmatique, les liens entre la Nouvelle-Calédonie et la France. Donc l'épouvantail chinois, si vous voulez, et quand on connaît le dossier calédonien, ça nous évoque dans les années 80 l'œil de Moscou, c'était partout. Et puis il y avait la Libye aussi. Enfin, vous voyez, c'est-à-dire l'idée derrière, c'est que les indépendantistes étaient toujours plus ou moins manipulés par des puissances étrangères malfaisantes, quoi.
Quand vous dites, Benoît Trépied, que ensuite on était censé effectivement redéfinir tout cela de manière pragmatique, est-ce que c'est vraiment mort cette idée-là, y compris s'il y a un non à l'indépendance? Est-ce que ça veut dire que si c'est non, on plie tout, on n'en parle pas et le dossier est intégralement fermé, ou est-ce qu'il y a quand même une porte ouverte pour travailler sur le statut de la Nouvelle-Calédonie?
Alors, ce qui est sûr, c'est que va y avoir un non et que le dossier sera pas clos. Ça, c'est sûr et certain. Ça a même été reconnu par l'État, qui a dit que le droit à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie demeurerait. Et évidemment, les Kanaks vont pas se satisfaire d'un non à l'indépendance. Ça y est, c'est terminé. Eux, leur aspiration à l'indépendance n'a pas décru. On a constaté qu'elle avait progressé d'un référendum à l'autre. En dépit des transformations sociales, des transformations de conditions sociales, de l'amélioration des conditions de vie, etc. Vous savez qu'en Calédonie, par exemple, c'est le seul territoire où plus le niveau de diplôme monte chez les Kanaks et plus l'attachement à l'indépendance demeure. Donc, cette revendication de décolonisation, de recouvrement de la dignité qui a été spoliée par la colonisation, elle ne va pas disparaître demain. Donc, de toute façon, il faudra en reparler. Le vrai problème, c'est qu'avec ce référendum manqué, on perd du temps, on perd une occasion précieuse de faire un état actuel des rapports de force à partir desquels on peut trouver un compromis. Mais à terme, de toute façon, les Calédoniens doivent vivre ensemble, Kanak et non-Kanak. Donc ils doivent faire vivre cette citoyenneté, ce qui veut dire qu'ils doivent trouver un compromis politique inédit encore, qui satisfasse tout le monde et qui se jouera dans la redéfinition des liens entre la Calédonie et la France.
Et justement,
personne ne sait ce que ça va être, et ce qui est sûr, c'est que le contexte actuel ne favorise pas du tout ce dialogue.
Et justement, et ce sera ma dernière question, Benoît Trépied, est-ce qu'on peut imaginer, en étant optimiste, puisque vous l'avez dit, l'indépendance sèche, elle n'était de toute façon plus sur la table, que le statut auquel on arrivera finira par ressembler d'extrêmement près à ce qu'il y aurait eu finalement, y compris avec un oui, puisqu'encore une fois, c'est pas un oui à l'indépendance plein et entier qui dit qu'on coupe chacune des portes.
Oui, en réalité, la paix durable en Calédonie ne peut passer que par ce type de statut, c'est-à-dire l'indépendance en partenariat, c'est en réalité le compromis qui paraît le plus acceptable dès lors que les assurances sont données à l'ensemble de la population calédonienne, que la France va pas les laisser tomber, qu'elle sera là pour un certain nombre de services, mais qu'en même temps, on recouvre pleinement notre souveraineté qui a été spoliée par la colonisation, qu'on devient un État reconnu sur la scène internationale et que librement, on décide de nouer des partages de souveraineté avec la France. Ça, il me semble que c'est un projet sur lequel, en réalité, tout le monde peut s'entendre et une issue pourrait être trouvée. Voilà.
Merci beaucoup, Benoît Trépied. Vous êtes anthropologue et chargé de recherche au CNRS. J'ajoute, pour ceux qui voudraient poursuivre cette discussion et qui sont en région parisienne, que vous donnez une conférence sur ce sujet à la Bourse du Travail de Saint-Denis. Ça se passera demain à 19h30 pour ceux donc qui sont dans la région sur ce sujet passionnant. Merci beaucoup.
Le 18-20, Fabienne Saint-Esse. Sur France Inter.
La suite ce soir, c'est le bruit du monde. Nous allons en Mauritanie, voir comment les associations essayent de faire de la prévention et du soin, notamment contre le sida, au milieu de populations qui sont totalement réprimées par le régime. Et puis la troupe qui vous accompagne jusqu'à 19h, c'est Sous les radars et Sébastien Legénie.
Nous irons au Québec, qui expérimente une police immersive, encore plus proche des citoyens que la police de proximité.
L'Europe, tu l'aimes ou tu la quittes, comme chaque jeudi ce soir après le discours d'Emmanuel Macron. Nous irons en Italie et en Hongrie. Nouveau couple européen peut-être, et couple infernal européen. Et puis le monde d'après, Jean-Marc Four, vous aussi, c'est une histoire de couple.
Oui, bonsoir à tous. À première vue, avec le nouveau chancelier allemand qui sera demain à Paris, Emmanuel Macron trouve un excellent partenaire pro-européen, mais sa première vue seulement.
Allez, à tout de suite tout le monde. Le tour de la planète n'est pas fini, il passe par le Royaume-Uni. Cette circonstance, tiens, puisqu'on parle de couple, I love you, I hate you, Little Sims sur France Inter.
So much, I would give my life for this. If the bullet was the beat, I would probably die for this. How many times did I cry for this? I would hate myself if I didn't at least try for this. What's at stake is bigger than me. Blood, tears, how it stains, can't rid it with ease. What we have in common is our pain. We're given the keys to unlock what it takes to fight for what we believe in. Hard to confront the truth of what you see in the mirror. Some people you inspire and others you trigger. Fighting a blind faith led by the internal voice. You might not wanna do it, but you don't have a choice. Will the pressure take me to new heights or be my demise? Will my intentions coincide with what I advise? The people looking up to me doing everything right. But who am I to tell anyone how to live their life? Your pain, threshold will determine if you survive. I'm amazed by it, lying to myself, pretending I was never faced by it. Maybe cause you're in my DNA, that's why. Sometimes, always, but right now, you made the promise to God to be there for your kids. You made a promise to give them a life you didn't live. My ego won't fully allow me to say that I miss you. A woman who hasn't confronted all her daddy issues. The day will come when you gotta find all the answers to your sins. Pressures are provided, feeling unhappy within. Or what kind of external family shit up on your plate. But I understand wanting and needing an escape. Too much I said, now the silence giving me headaches. Only through speech can we let go of all this dead weight. Even though I'm angry, don't wanna be disrespectful. Trying to figure out how to approach this in the best way. Hard to not carry these feelings even on my best days. Never thought my parents would give me my first heartbreak. Anxiety giving me irregular heart rate. Used to avoid getting into how I really feel about this. Now I see how fickle life can be and so it can't wait. Should have been the person there to hold me on my dark days. It's easier to stargaze. I wish that we faced with this reality.
Le bruit du monde, ce soir, est en Mauritanie, où la répression contre les homosexuels et contre les travailleuses du sexe est telle qu'aucun n'ose se rendre chez le médecin. Dans le même temps, l'épidémie de sida galope, et vous devinez la catastrophe, c'est pour cela que des associations communautaires se mobilisent pour faire de la prévention et de la prise en charge. Le reste, c'est Théa Olivier qui raconte.
Toute la soirée, 10 jeunes homosexuels jouent de la musique dans leur petit appartement d'un quartier populaire de Nouakchott. C'est le seul moyen qu'ils ont trouvé pour exprimer leur frustration, eux qui ont tous été rejetés par leur famille. À 25 ans, Sharihan a souvent été victime d'insultes et de violences.
J'ai tout le temps peur. Même pour la plus simple des maladies, même un bouton ou une infection, je ne peux pas aller à l'hôpital et je vais le cacher. Ce qui peut même amener des complications jusqu'au décès. C'est pourquoi nous avons souvent des IST, infections sexuellement transmissibles, et on le cache jusqu'à ce que ça se développe et que ça devienne une infection incurable.
Là, les préservatifs, tu les as sortis, qui sont cachés sous une valise dans un placard. Pourquoi les cacher ?
C'est très dangereux pour nous, car la police vient nous arrêter sans motif, à plus forte raison quand nous avons des préservatifs sur nous.
Le code pénal punit de la peine de mort tout acte contre nature avec un individu de son sexe. Même si la loi n'est pas appliquée, ce groupe de jeunes homosexuels préfère se faire dépister du VIH par des acteurs communautaires sans jugement ni discrimination. Khatre, lui aussi homosexuel, travaille pour l'association mauritanienne SOS Père Éducateur.
On t'accompagne dans le soutien psychologique et médical. S'il était homosexuel, ça c'est leur orientation. Ça ne nous concerne pas. Nous, on bagarre, on supplie la loi. Donner à toutes les gens leurs droits pour les santé seulement. Nous, on bagarre pas pour liberté, parce qu'on ne peut pas donner liberté de l'homosexualité en Mauritanie, République islamique. Dès qu'on est ensemble, on prend ce thème du VIH, parce qu'il n'y a aucun complexe. Parce que nous, si on est tout dans une communauté HSS, on reste plus libre.
Ça va,
23% des hommes qui ont des relations sexuelles avec des hommes vivent avec le VIH, alors que le taux de prévalence n'est que de 0,3% dans la population générale. Le gouvernement mauritanien assure pourtant que la société civile peut travailler sans entrave, ce que constate aussi le directeur d'ONU-SIDA en Mauritanie, Mustapha Attir.
Nous avons toute la liberté de pouvoir travailler avec ces populations, même si elles sont criminalisées. Et personne ne nous dérange pour leur donner les soins, offrir les services de prévention et de traitement. C'est vrai, nous n'affichons pas que nous demandons ouvertement les droits de ces populations. Ça pourrait même irriter quelque part quelques-uns. Et bien sûr, à haut niveau, il y a le plaidoyer pour lutter contre la criminalisation de ces populations. Et sûrement, il y a des canaux diplomatiques qui sont ouverts dans ce sens.
Direction Chani, maintenant à 235 km de Nouakchott, la capitale. Dans cette ville minière sortie du désert, des centaines d'orpailleurs traitent l'or venu des sites d'extraction. Beaucoup sont des clients de la prostitution. Omar, 19 ans, travaille ici depuis un an et demi.
Parfois, je descends en ville pour voir les femmes qui sont là-bas, pour m'amuser un peu, parce qu'ici, je ne vois pas les filles. Pour les grosses et les plus âgées, on leur donne 300 ougias, mais les plus fraîches, on donne 400 à 500 ougias, soit entre 7 et 12 euros environ. Tout le monde prend les préservatifs ici, on est conscient du danger du VIH. Ce sont les travailleuses du sexe qui ont les préservatifs.
Ces préservatifs sont fournis par l'association SOS Père Éducateur. Leur cible, les professionnels du sexe, car 9% d'entre elles vivent avec le VIH. Zaina est gérante d'un restaurant qui est aussi une maison close.
Chaque un mois, tu fais ton test, tu fais regarder encore ton sang pour que tu défendes ton corps parce que c'est une maladie grave. Les gens, elles nous aident, elles nous donnent les médicaments, elles nous donnent les préservatifs. Mais si on trouve ça avec toi, c'est une preuve. De prostitution, avec des relations de jeunesse, c'est un délit. Tu peux partir jusqu'à la justice.
La prostitution et les relations sexuelles hors mariage sont pénalisées. Alors jamais Zaina ne mentionne directement son métier, même avec Amadou Diop, acteur communautaire de l'association.
La parole, elle ne sera pas directe. Pas en présence d'un père. Peut-être c'est aussi un signe de respect par rapport à nous. À la longue, peut-être que ces mots seront directs. Avant, c'est nous qui venions à chaque fois demander si elles avaient des nouvelles, si on faisait une causerie éducative, si on discutait un peu du VIH. Mais maintenant, c'est eux qui nous disent qu'ils ont des nouvelles. Et vous venez les dépister, venez les sensibiliser. Donc ça veut dire qu'il y a un avancement. On espère à la longue que cette confiance va durer.
Un kiosque discret a aussi été installé récemment dans la ville minière pour distribuer des préservatifs, faire des tests et accueillir toute personne qui a besoin d'une oreille attentive.
Théa Olivier, à Nouakchott en Mauritanie pour Un jour dans le monde. Merci beaucoup Théa. Le bruit du monde, la suite, c'est l'actualité internationale passée sous les radars. Et c'est Sébastien Logeni. Et Sébastien, nous sommes dans un coffee shop aux Pays-Bas, c'est pas le moment, on a du travail, où le business est florissant depuis le Covid.
Oui, les Hollandais fument plus de joints depuis la pandémie afin de lutter contre le stress ou contre les idées noires. D'après un sondage, 90% des consommateurs d'herbes ont recours autant qu'avant ou davantage qu'avant au cannabis depuis l'émergence du coronavirus. Cette étudiante qui parle anonymement parce qu'elle consomme aussi des drogues non légales, c'est pas la drogue visiblement qui lui fait ça, mais le fait qu'elle parle anonymement raconte qu'elle fume plus car il y a moins de soirées festives depuis l'épidémie. Tu te retrouves, dit-elle, souvent seule chez toi, donc tu fumes devant ta télé pour ne pas t'ennuyer. Voilà, les patrons de coffee shop parlent d'une consommation multipliée presque par deux pour certains fumeurs. Il y a aussi de nouveaux clients, des mères au foyer par exemple qui achètent de l'herbe pour mieux dormir et pour supporter l'anxiété générée par la pandémie. C'est un comportement connu des historiens. Pendant les épidémies de peste aux Pays-Bas, par exemple, les habitants recouraient davantage au tabac ou même à l'opium.
Allez, partons pour le Québec qui se lance dans la police dite immersive.
Oui, la police dite immersive, c'est-à-dire une nouvelle expérimentation des Québécois dont on connaît l'appétit pour les pratiques alternatives en matière sociale ou criminelle. Les Québécois qui appliquent depuis 20 ans déjà le concept de police de proximité communautaire, on dit là-bas, proche proches des gens dans les quartiers, eh bien la police s'apprête à aller encore plus loin avec un projet pilote dans la ville de Longueuil au sud de Montréal. 17 policiers vont vivre une immersion permanente au sein de la population. L'idée, c'est de pouvoir intervenir en amont, bien avant les appels au 911, les urgences en Amérique du Nord. Explication de Fadi Dagger, le chef de la police de Longueuil, qui a déjà testé un dispositif sur quelques semaines il y a 2 ans.
Lors des appels d'urgence, c'est extrêmement difficile de pouvoir faire des ponts, créer des passerelles avec les citoyens. Donc là, c'était vraiment 5 semaines d'immersion en 2019, sans armes, sans uniforme, et vraiment immersé dans la communauté, souper, passer des soirées en famille avec les gens, aller à l'épicerie avec eux autres pour vraiment saisir ce qu'ils vivent au quotidien.
Concrètement, un policier peut se retrouver à devoir trouver un logement pour un SDF, pour lui éviter de tomber dans la délinquance, des assistantes sociales en quelque sorte en version plus musclée pour prévenir les infractions. Aujourd'hui, il faut savoir que 70 à 80% des appels au 911 sont plus d'origine sociale que criminelle, disent les experts. L'expérimentation doit durer 3 ans et elle sera évaluée par une université québécoise avant peut-être d'être étendue au reste du territoire.
Et puis on termine avec une invention aussi géniale que déprimante, c'est une boîte noire de la Terre en cas de fin du monde.
Oui, comme dans un crash d'avion, Fabienne, où les boîtes noires permettent de comprendre ce qui s'est passé juste avant l'accident, eh bien, cette boîte noire, imaginée par une société australienne et des chercheurs australiens, permettrait aux civilisations futures de comprendre comment et pourquoi l'humanité a disparu. Est-ce à cause du réchauffement climatique, de la guerre nucléaire ou d'une météorite géante? La réponse serait là, entreposée dans un grand monolithe planté au milieu du désert, face 2001, l'Odyssée de l'espace. Scène culte du film de Kubrick où des singes, on l'entend, découvrent un monolithe noir mystérieux tombé du ciel. La Earth Black Box, la boîte noire de la Terre, s'en inspire un peu de ce monolithe. Un monolithe de 10 mètres de long, de 4 mètres de haut, fabriqué avec un acier de 7 centimètres quand même d'épaisseur, soi-disant indestructible. C'est déjà pas mal. Construit sur l'île de Tasmanie, au large de l'Australie. Seule différence avec Kubrick, le monolithe serait orange et non pas noir. C'est là-dedans que ces concepteurs veulent y stocker des milliards de données sur disque dur, température terrestre, quantité de CO2 dans l'air, population humaine, dépenses militaires, titres de journaux, tweets alarmistes ou même rapports du GIEC. Vous serez peut-être dans ce monolithe, Fabienne, le tout alimenté par des panneaux solaires pour pouvoir continuer à stocker des données même après l'apocalypse. La vraie question, c'est de savoir si ceux qui découvriront ce monolithe, quand nous serons tous morts, seront en capacité de le déchiffrer. Les chercheurs y travaillent pour éviter que les générations futures ne se retrouve coincé comme les singes de Kubrick devant cette boîte énigmatique.
Je sais que Franck et toi aviez l'intention de me déconnecter. Je le regrette, mais je ne peux pas. C'est quoi? Je ne peux pas courir ce risque.
Vous citez dans le texte.
Bah voilà, vous l'avez. Au revoir, Sébastien. Repartez avec votre monolithe et votre fin du monde avec 3 questions. Quoi? C'est l'Australienne Sarah McKenzie.
What have you done to me? The music plays with me. I never meant to walk your way, and then one day love walked my way, and now I'm all la 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 la, pa 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 pa, qua 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 qua, qua 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 qua, qua 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 qua. What is the meaning of pa 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 pa? The rhythmic feeling of, I never thought I'd get the call, or that I'd ever dance at all. But now I'm all la 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 la, pa 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 pa, qua 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 qua, oh, je ne sais quoi. The truth in life is what will always be. So don't go forcing love, just wait and then you'll see. Qua 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 qua. A whim, a woe, a way now. Pa-da-pa-pa-pa-pa-pa. A whim, a woe, stay now. I never thought I'd ever see another singing just like me. Pa-la-la-la-la, pa-da-pa-pa-pa. Qua-qua-qua-qua-qua. Je ne sais quoi. Thank you.
Quoi, Sarah McKenzie sur France Inter.
France Inter.
Je suis venu vous parler d'Europe.
The European Union.
Général.
Un jour dans le monde.
L'Europe, tu l'aimes ou tu la quittes, comme chaque jeudi, en ce jour de discours d'Emmanuel Macron avant sa présidence du Conseil de l'Union. Nous allons ce soir regarder les amis et les ennemis, avec quelques guillemets quand même, pour parler des ennemis de l'Europe telle qu'Emmanuel Macron la voit. Nous passons par deux pays. Bonsoir Bruce de Gelsen.
Bonsoir.
Vous êtes en Italie, Bruce, et cette question pour vous, le rapprochement, on l'a vu s'opérer. Est-ce que Mario Draghi est le nouveau meilleur ami de la France sur les questions européennes? Est-ce que un nouveau couple est en train de se former?
Ah bah clairement oui, hein. Il n'y a jamais eu une entente si parfaite entre la France et l'Italie, entre ces deux dirigeants, même si attention, un tout peut être éphémère en Italie. Mais là, c'est ce qui m'a sauté aux oreilles en écoutant Emmanuel Macron cet après-midi. Les deux hommes sont totalement alignés, sur l'économie notamment, et le pacte de stabilité spécialement. Il est inévitable de le changer, avait dit Mario Draghi il y a 15 jours, lorsque la France et l'Italie ont signé leur premier traité bilatéral. Il n'y en avait qu'un entre la France et l'Allemagne, et bien maintenant... il y en a deux, et Emmanuel Macron vient de dire la même chose. Avec tous les investissements annoncés par l'Europe pour la transition écologique, numérique, la lutte contre le changement climatique, eh bien, il faut faire évoluer les règles budgétaires. Rome et Paris, avec Angela Merkel et Olaf Scholz, alors ministre des Finances, ont déjà obtenu la première mutualisation de la dette, et Draghi et Macron veulent poursuivre dans cette direction. Les deux hommes sont totalement sur la même longueur d'onde en ce qui concerne le changement climatique également. Et puis, il y a la défense. Emmanuel Macron avait des doutes sur l'OTAN. Eh bien, l'atlantiste Mario Draghi estime que pour être souveraine, l'Europe doit défendre ses frontières, créer une véritable défense européenne complémentaire de l'OTAN. Une Europe plus forte fait une OTAN plus forte, selon Mario Draghi et Emmanuel Macron. À propos des frontières, la question migratoire n'est pas tout à fait vécue de la même manière par l'Italie, pays de premier accueil, et par la France, voilà. Mais Rome et Paris sont aussi d'accord pour réformer l'espace Schengen et le droit d'asile. C'est donc, oui, un axe franco-italien qui se dessine sur des questions essentielles pour l'Europe. Tous les deux, ils veulent une Europe puissante dans le monde, en être le moteur sans oublier l'Allemagne. Mais il est vrai que Mario Draghi a un charisme que n'a peut-être pas Olaf Scholz. Et puis on l'a bien compris, il a une proximité avec Emmanuel Macron. Et il y a aussi des échéances politiques. Et les deux hommes ont intérêt à s'entendre. Emmanuel Macron a une élection présidentielle, mais veut aussi influencer la marche de l'Europe. Et Mario Draghi est lui au pouvoir en Italie depuis peu. Mais tous veulent le voir rester pour qu'il mette en place le plan de relance, rester jusqu'en 2023. Et en 2024, eh bien la Commission européenne change de tête. Alors pourquoi pas Mario Draghi avec le soutien d'Emmanuel Macron?
Allez, on a entendu le lapsus révélateur au sujet de l'Allemagne, on y viendra dans un tout petit instant. Merci Bruce de Gelsen. À l'autre bout du spectre, il y a la Hongrie, où Emmanuel Macron sera d'ailleurs dès lundi prochain. Et bonsoir Florence Labruyère.
Bonsoir.
Florence, Viktor Orban, cette visite d'Emmanuel Macron à venir, qu'est-ce qu'il en fait? Est-ce que quoi qu'il dise le président français, Orban s'en fiche éperdument?
Alors pour Viktor Orban, ce qui compte, hein, c'est de savoir si en face de lui, il a un allié ou un ennemi. Emmanuel Macron a pointé du doigt les dérives autoritaires de Budapest, mais d'un autre côté, le président français a reçu Orban plusieurs fois à l'Élysée. Et les deux hommes ont plus en commun qu'on ne le pense, du point de vue de la personnalité. Ce sont tous deux des solitaires qui gouvernent seuls. Alors c'est vrai qu'en ce moment, Orban n'est pas dans une position facile, car la Commission européenne bloque le versement des fonds communautaires à la Hongrie. En clair, la Commission dit « si la corruption, qui est très organisée par l'État en Hongrie, ne diminue pas, vous n'aurez pas d'argent ». Est-ce que l'offensive bruxelloise contre la corruption va s'intensifier sous la présidence française? Ce n'est pas sûr. Le dirigeant hongrois sait que Macron va être très occupé par la présidentielle française. Et puis Orban a plutôt les yeux rivés sur l'Allemagne. Il a toujours été très protégé par Angela Merkel. Et la grande question, c'est de savoir si la nouvelle coalition allemande va continuer à le soutenir.
J'ai une autre question pour vous, Florence. Ça a échappé à personne. Il y a cette élection qui attend Orban au printemps 2022. Lui aussi, ce sont des législatives. Est-ce qu'Emmanuel Macron est aussi en train de tâter le terrain d'une Hongrie sans Orban, de faire ce pari-là? Est-ce que c'est un pari risqué?
Alors c'est vrai que c'est une nouvelle donne. Pour la première fois, l'opposition hongroise se présente unie aux élections face à Orban. ça augmente un peu les chances de cette opposition hongroise, qu'Emmanuel Macron va d'ailleurs rencontrer à Budapest, mais ça ne veut pas dire qu'elle va battre Viktor Orban. Hein. Ce dernier a beaucoup tricoté la loi électorale pour qu'elle favorise son parti. Il est possible qu'à Bruxelles, comme à Paris, on se dise « Ah, bah, attendons le résultat du scrutin hongrois pour agir ». Donc ces élections hongroises risquent de parasiter la présidence française. Et l'attentisme ne peut que profiter à un certain Orban qui continue pendant ce temps-là, lui, à démolir la démocratie à la vitesse grand V.
Florence Labruyère en Hongrie, merci beaucoup. Décidément, on a beaucoup parlé d'Allemagne. Eh bien, allons-y.
Fabienne Synthès, le 18-20.
Parce que c'est votre monde d'après, Jean-Marc Four. Je vous salue, Jean-Marc. Emmanuel Macron, dans la foulée de sa conférence de presse donc sur l'Europe, va accueillir demain à déjeuner Olaf Scholz, le nouveau chancelier. La coalition désormais au pouvoir à Berlin est très pro-européenne. Les planètes donc sont alignées avec Paris pour une nouvelle dynamique forte sur le sujet. Mais pour vous, ce sera beaucoup plus compliqué que ça en a l'air et c'est votre monde d'après.
Ouais, la devanture est séduisante, hein. Paris et Berlin main dans la main, résolument pro-européen, mais sur tous les sujets, quand on gratte le vernis, c'est pas si simple entre les deux capitales. On va prendre d'abord le climat, le Green Deal européen. C'est l'un des grands sujets portés par Paris. La forte coloration écologique de la nouvelle coalition allemande devrait donc aider, notamment pour faire aboutir le projet français d'une taxe carbone aux frontières de l'Union. Mais si on regarde le sujet climat en plan large, c'est une autre paire de manches. Berlin défend les énergies renouvelables, solaire, éolien, objectif 80% du mix énergétique dans 10 ans et arrêt total du nucléaire dans un an. Paris, à l'inverse, voit dans le nucléaire la clé de sa stratégie et entend que cette énergie soit classée comme vertueuse sur le plan climatique. Gros désaccord. Même chose sur la question de l'autonomie stratégique de l'Europe. Sur le papier, Berlin est favorable à cette idée. Comme Paris, mais l'Allemagne n'y accorde pas le même sens. Berlin pense en fait à l'autonomie sur les vaccins, l'approvisionnement énergétique, le numérique. Par autonomie stratégique, Paris entend, elle, parler de l'Europe de la défense, indépendamment de l'OTAN, avec des projets industriels, avions, chars et une capacité de projection sur le terrain. Emmanuel Macron y a insisté tout à l'heure. Et là, pour le coup, les Verts, toujours eux, qui pilotent désormais la diplomatie allemande, ne sont pas fans.
Et sur l'économie, Jean-Marc, est-ce que c'est pareil, un accord seulement en apparence ?
C'est possible, hein, parce que Paris va obtenir le soutien de Berlin pour un autre projet phare de sa présidence, à l'instauration d'un salaire minimum en Europe. L'idée convient au nouveau chancelier, il est social-démocrate, et puis ça peut constituer un petit marqueur de gauche pour le président français en campagne. Mais après, ça se complique. Sur deux sujets majeurs. D'abord, l'endettement. Bruce de Galzin le disait à l'instant. La France et l'Italie vont plaider pour une pérennisation de l'endettement mutualisé de l'Europe, cette mesure dérogatoire à l'orthodoxie budgétaire qu'Angela Merkel avait fini par accepter pour relancer l'économie post-Covid. Il faut investir, disait Emmanuel Macron tout à l'heure. On ne peut pas faire avec les règles d'avant. Mais en face, le nouveau ministre des Finances allemand, Christian Lindner, va sans doute dire non, nein, pas question. C'est un libéral partisan d'une stricte orthodoxie. On ne dépense pas ce qu'on n'a pas. Autre sujet potentiel de discorde économique, l'immigration. Parce que pour Berlin, c'est un sujet économique avant tout. La nouvelle coalition allemande entend attirer 400 000 immigrés par an. Oui, 400 000, y compris par regroupement familial, en appliquant des critères de sélection pour faire venir une main-d'œuvre qualifiée. En France, on le sait, le sujet est tabou, irrationnel en pleine campagne présidentielle. Et cet après-midi, Emmanuel Macron a abordé ce sujet migration, essentiellement sous l'aspect sécurité, contrôle des frontières. Donc là encore, ça peut tirailler.
Mais alors Jean-Marc, il y a quand même une volonté partagée de faire avancer l'Europe politique, pas seulement monétaire.
Oui, c'est vrai, mais même là-dessus, il y a une forme de doute. Pourquoi ? Parce que la nouvelle coalition allemande veut plus d'Europe politique, c'est vrai, mais pour la première fois sur le sujet, Berlin veut aller plus vite et plus loin que Paris. Le contrat de coalition allemand, il y va fort quand même, mais il se donne pour objectif une Europe fédérale. Oui, fédérale, quitte à devoir en passer par une révision des traités et une convention constituante européenne. Berlin prône désormais la création d'un vrai ministre des Affaires étrangères européen. Et en tant qu'à l'avenir, les décisions diplomatiques de l'Union soient prises non plus à l'unanimité, source de blocage, mais à la simple majorité qualifiée. Des 27. Fédéralisme, c'est un mot tabou en France. Paris reste ambigu sur la question du vote à la simple majorité. Pas question de courir le risque de devoir adhérer à une position européenne supranationale qui ne serait pas la position française. Donc ça fait quand même beaucoup de différence. Alors bien sûr, comme toujours entre Paris et Berlin, il y aura la volonté de trouver des compromis, d'éviter d'apparaître désunis. Les deux capitales veulent tous deux plus d'Europe. C'est beaucoup. Mais cette Europe augmentée ne revêt pas le même contenu vu de Paris et vu de Berlin.
Le monde d'après de Jean-Marc Four. Merci beaucoup Jean-Marc, le 18-20. La suite, c'est le journal d'Hélène Filly et puis le téléphone sonne. À tout de suite.